Je vous invite à trouver la feuille que vous avez avec l'épître de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, en tête de la feuille. Donc, je vous ai imprimé le passage biblique au lieu de vous demander de le lire dans la Bible. Je vous explique la raison, parce que normalement, je ne fais pas ça. J'ai changé la moitié d'un verset, d'une phrase, je ne l'ai pas changé. Mais j'ai piqué une autre traduction plus récente d'une demi-phrase, parce que cette demi-phrase, dans la version de notre Bible à la Colombe, est un peu mal traduite. Et donc j'ai pris cette demi-phrase dans la version qu'on appelle la Nouvelle Bible Seconde, et je l'ai mis à la place. Donc vous avez là la version Colombe, sauf une demi-phrase qui est la traduction donc Nouvelle Seconde. En effet, ce passage a quelques phrases très difficiles à comprendre et à traduire du grec. Et les traducteurs se sont débattus pour essayer de rendre ça en français ou en d'autres langues. Mais nous lisons donc, voilà le texte de ce passage. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Et maintenant, à partir du verset 8 jusqu'à la fin, commence ce qu'on appelle le long avertissement de l'Épître aux Colossiens. D'accord ? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui, Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, ou en union avec lui, uni à lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir, c'est-à-dire toute autorité céleste, hein, angélique ou autre. Christ est le chef de tout le monde spirituel. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps, de la chair, la circoncision de Christ. De manière imagée, il parle de ce qu'on appelle la nouvelle naissance, le changement de cœur que le chrétien subit quand il se convertit à Christ. Enseveli avec lui, avec Christ, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en la clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il parle des puissances démoniaques ici, et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et maintenant la partie qui nous concerne ce matin, parce que nous avons étudié la partie précédente il y a deux ou trois semaines. Verset 16. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Ne vous laissez pas frustrer, voilà la partie la demi-phrase que j'ai changée, ne vous laissez pas frustrer de la victoire par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges au gré de leur vision. Ils sont gonflés d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef, donc à Christ, par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations. Il parle de nous, le corps de Christ. Nous sommes des jointures, il est la tête, nous sommes les membres. Donc, au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps, soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit spirituellement d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit des préceptes et des enseignements humains. Donc c'est l'homme qui a fabriqué ça, c'est pas Dieu. Qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, culte religion en kit, culte volontaire, culte qui vient de moi, moi je veux le faire comme ça. Culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et qui contribue à la satisfaction de la chair. Et rappelez-vous que quand Paul dit la chair, il ne parle pas de ça, il parle de l'ancienne nature pécheresse, les penchants pécheurs en nous. Ok, bien, rappel. La ville de Colosse, en Asie mineure, dans le 1er siècle, il y a une église chrétienne. C'est un environnement totalement païen, mais il y a des gens qui ont entendu la bonne nouvelle de Christ, du Dieu véritable qui envoie son Fils pour mourir pour nous réconcilier avec lui, non pas par ce que nous faisons, mais par ce qu'il a fait à la croix, et ils ont cru. Ils ont été pardonnés, lavés, changer, ils sont différents et donc ils sont dans cette église. Voilà qui vient des faux enseignants. Un jour, on ne sait pas d'où ils sont venus, combien ils le sont, mais nous savons qu'ils ont commencé à tenter de convaincre ces chrétiens d'une hérésie chrétienne. Je dis hérésie chrétienne parce que ce n'est pas un enseignement qui va tellement à l'encontre de l'Évangile que ça peut vous enlever carrément de Christ et du salut, comme l'hérésie de l'épître de Paul aux Galates, mais c'est une hérésie qui mine leur vie chrétienne. Et c'est quoi cette hérésie? En gros, cette hérésie, c'est que c'est bien, on est sauvé par Jésus-Christ et ce qu'il a fait, mais pour arriver à toute la plénitude de Dieu, à toute la bénédiction, à toute la transformation de vie que Dieu veut pour nous, il faut Christ plus. Et donc, le plus, c'est là qu'il y a le problème. Le plus, Christ plus. Et le plus, pour eux, nous allons le voir dans ce passage, mais c'est un ensemble d'expériences mystiques, de pratiques judaïques caduques et de l'ascéticisme, c'est-à-dire faire souffrir son corps en pensant que ça va nous avancer spirituellement. Donc il y a, c'est vraiment une salade, que maintenant c'est bien que vous soyez chrétien, mais pour arriver à une plus grande plénitude, il faut Christ plus. Donc Paul entre dans cet avertissement, le long avertissement de l'épître, et comme il est de son habitude, dans le verset 8 que vous voyez, deuxième paragraphe sur votre feuille, il donne d'abord un petit sommaire de tout ce qu'il va développer. Donc il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Donc, il y a deux problèmes avec cet enseignement de ces gens qui sont arrivés. Vous les avez vus dans le verset 8, deux problèmes. Alors, premier problème, c'est un enseignement qui est selon la tradition des hommes. Ça a été inventé ici dans notre petite tête et non pas révélé de Dieu. C'est selon les principes élémentaires du monde. Alors, je dois m'arrêter, excusez-moi pour le grec, mais la phrase « principe élémentaire du monde », c'est un seul mot en grec, « stoïkia ». Alors le « stoïkia », c'est un mot qui signifie à la base des rudiments. Ça vient d'une racine qui signifie des choses alignées. Et à l'époque, dans l'Antiquité, on utilisait ce mot, par exemple, pour parler de, des lettres de l'alphabet ou d'une échelle musicale, des rudiments, des bases de la musique, ou bien de parler des planètes, ou de parler des éléments fondamentaux de la nature. La terre, l'eau, le feu, c'était les stoïcas, stoïcia. Et donc, Paul utilise ce mot pour dire que ne vous laissez pas prendre par quelqu'un qui vient juste avec des idées humaines de comment arriver à la bénédiction de Dieu et qui se base sur les trucs, les béabas, les trucs basiques de ce monde. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire tout à l'heure par cela. Mais en gros, le stoïcien, c'est la religion. La religion. Ne vous laissez pas prendre par la religion. Rejetez, fuyez si jamais quelqu'un vous propose une religion. Au moins tel que j'utilise le mot. Parce que je suis en train d'utiliser le mot pour signifier quelque chose que l'homme fabrique pour grimper une échelle vers Dieu. Ok. Juste un ou deux autres points dans l'introduction, et puis j'aurai trois points qui sont assez rapides. Le ton. Quel est le ton de ce passage? Le ton, c'est vraiment soyez vigilants. Est-ce qu'il y a des sectes en France? Quelle est notre attitude vers des sectes? Mais moi, je parle de vraies sectes pernicieuses. C'est ce ton-là. Vous entendez que votre fils ou votre sœur est. On lui fait la cour, des faux gens d'une secte, et qu'est-ce que vous dites? Vous dites, faites attention, n'est-ce pas? Ça, c'est le ton. Paul aime ces gens et il dit, ne vous laissez pas prendre. Et il donne quelques idées en cours de route que vous savez que quand on a ces sortes d'enseignements que nous savons ce que vous ne savez pas. Vous êtes des chrétiens de base, mais nous pouvons vous faire arriver à la plénitude. Vous savez ces gens-là, vous les avez rencontrés? Alors d'abord, ces gens, ils vous disent, vous n'êtes pas encore dedans comme nous. Et c'est un peu le discours qu'il dit à un moment donné, ne vous laissez pas frustrer par ces gens, verset 18, ne vous laissez pas frustrer de la victoire par les gens. Et le mot, c'est un mot qui vient du sport grec et qui parle de l'arbitre. L'arbitre qui dit, c'est une faute dehors ou c'est à but. Et donc, ces gens viennent dans notre église et ils disent, ah non, vous n'êtes pas, non, non, non. Vous êtes hors jeu, vous n'avez pas tout ce qu'il faut. Et donc, ne vous laissez pas faire si jamais vous êtes abordé par des personnes qui ont cette attitude-là. Aussi, ces gens sont divisifs. On dit ça en français? Ils divisent. Ils divisent. N'est-ce pas? Dès que tu as un enseignement comme ça, il y a ceux qui sont arrivés à la plénitude. Et puis il y a nous autres, n'est-ce pas? Et ça divise les gens, ça casse l'unité de l'Église. Et ensuite, ces gens sont manipulateurs, intimidants et mettent de la pression. Et c'est pour ça qu'il doit parler comme ça. Ne vous laissez pas juger, ne vous laissez pas prendre, ne permettez pas que quelqu'un joue l'arbitre vis-à-vis de vous. Ne vous laissez pas prendre comme cela. Christ nous donne une liberté de tout cela. Ok, donc ça c'est le ton. Et maintenant, je veux vous poser le contexte pour que nous puissions comprendre les trois dangers qui sont devant nous vraiment aujourd'hui. Et c'est très actuel ce problème. Ok, je vous mets le contexte. Alors, je suppose, hein, tu es chrétien. Tu es né de nouveau, Christ est venu te chercher, il a changé ta vie. Et tu as eu un changement de royaume. Alors, même dans cet épître, Paul dit un peu plus tôt que Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. C'est vraiment devenir chrétien véritablement, c'est un changement énorme. Ce qui règne dans ta vie n'est plus le même. Donc tu es en quelque sorte, dit la Bible, une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si tu ressembles à ce que tu étais avant ta conversion, il y a quelque chose de fondamentalement différent en toi. Il y a une vie invisible, chers amis. Il y a une vie céleste qui a une autre qualité. Cette vie est corrompue par notre détournement de Dieu. Nous le voyons dans les agissements des nations, des couples, des voisins, n'est-ce pas? Nous sommes sujets à la mortalité, à la mort, à la corruption, et tout cela, nous avons une vie différente que la vie de Dieu et de ses anges. Mais Christ est venu, il est devenu homme, il est mort, il est ressuscité en tant qu'homme, et maintenant il a une vie de ressuscité, une vie où lui n'est pas sujet maintenant à la mort, à la tentation, au péché. Il a pris notre race dans son bras, il est mort, il a enterré tout ce qui nous éloignait de Dieu, et il est devenu le ressuscité avec une vie autre. Le premier homme à avoir la vie céleste. Et quand on devient chrétien, la Bible dit qu'on est uni à Christ comme un sarment est uni au cep. Et il commence à nous communiquer sa vie. Une vie, une illumination, pas pour être illuminé, mais une possibilité de comprendre les choses spirituelles, de les croire, de les embrasser qu'on n'avait pas avant. Et ça, ce n'est pas à cause de notre volonté, c'est à cause d'une vie céleste en nous par le Saint-Esprit. OK? Donc, tout cela, c'est clair. Et pour grandir en tant que chrétien, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin de comprendre que vous êtes unis à Jésus-Christ, que tout est en lui, et vous avez besoin de vous rapprocher de lui de plus en plus, de compter sur lui, de dépendre de lui, de puiser en lui et de recevoir de lui. En d'autres termes, écoutez bien, c'est une affaire, la vie chrétienne, c'est une affaire d'une relation personnel avec Christ. Le christianisme, c'est Christ, c'est lui-même. C'est quelqu'un qui me change. C'est quelqu'un qui me sauve. Et pour grandir, il faut que je devienne plus proche, plus dépendant de ce quelqu'un. Mais, on a de mauvaises habitudes qui viennent s'immiscer et causer, s'aimer la pagaille dans tout cela. De vieilles habitudes de l'ancienne vie que vous aviez. Des habitudes que nous avons prises de par notre éloignement de Dieu, de par ce qu'on appelle la chute de l'homme. Des vieilles habitudes de dépendre de nous-mêmes et pas de Christ. Pas de quelque chose de céleste, quelque chose d'autre que moi-même, mais de vieilles habitudes de dépendre des règles que je peux garder, des rites que je peux suivre, des choses de ce monde. Et le problème, c'est ce stoïkeia. C'est les choses élémentaires, le béaba de ce monde. On est tellement habitué à vivre comme ça qu'il est facile de retomber dedans. Hier, j'ai passé un panneau qui disait... qui parlait de quelqu'un qui était hypnotiseur, et la phrase en dessous disait « La solution est en toi ». Ah, mais c'est ça exactement. Ça, c'est le béaba de l'homme sans Dieu qui pense que dans ce monde, dans cette vie humaine, il y a une force, il y a une ressource qui est capable. Que ce soit la sophrologie, le yoga ou les différentes religions que les hommes fabriquent, nous pensons qu'en faisant ceci, en faisant cela, donc nous allons y arriver. Et donc, à la base, toutes les religions du monde, sauf le christianisme, ont ce principe en commun. C'est que, grosso modo, c'est un système pour grimper une échelle et arriver à Dieu. Ok? Vous avez cette image? Je vais vous parler d'escalade, parce que c'est une échelle qui est un peu difficile. D'accord? Les cinq piliers d'islam, cinq étapes dans l'échelle. Ok? Vous voulez choisir d'autres religions, des rites à suivre, des choses à faire que nous avons, nous, inventées, et nous allons compter sur nous-mêmes. Et gardez ce jour sacré, suivez ce rite, lavez-vous comme ça avant de manger, ou lavez-vous comme ça quand vous entrez dans l'église, ou faites ce pèlerinage, ou souffrez cela, ou ayez cette expérience mystique, mais en tout cas, vous allez y arriver, c'est quelque chose que vous faites. La religion, c'est quelque chose que vous faites. Et quand vous le faites, ce n'est même pas tellement important que Jésus soit venu, qu'il soit mort et ressuscité, parce que vous ne comptez pas sur lui. Vous comptez sur ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes préoccupé par vos rites, vos obéissances, vos expériences, et tout cela vient d'en bas. Donc, maintenant, nous allons voir dans le passage rapidement trois manières dont les Colossiens étaient tentés d'emprunter une échelle qui monte par nos principes élémentaires, plutôt que simplement de cette bonne nouvelle de Christ qui est déjà descendue sur une autre échelle, n'est-ce pas? Et qui est là? Qui s'unit à moi? Qui œuvre en nous? Qui nous change? Ok, ritualisme, mysticisme, ascéticisme. On prend le premier. Ne grimpez pas l'échelle du ritualisme. Donc, nous lisons dans le texte, regardez bien au verset 16. Donc, c'est le verset de la deuxième partie en bas, premier verset de ce grand bloc en bas. Ainsi donc, personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez ou pour une question de fête. Nouvelle lune ou sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité ou la substance est celle de Christ. Il est en train de parler de quoi? Paul est en train de parler de différents rites et rituels et lois judaïques. Les choses que le juif pouvait manger et ne pas manger, des animaux impurs qu'il ne fallait pas manger, des choses à boire et ne pas boire. Et ce terme, les fêtes, nouvelle lune et sabbat, c'est une phrase qui apparaît 7 fois dans l'Ancien Testament, dans le même ordre, fêtes, nouvelle lune, sabbat, pour signifier tous les jours sacrés du calendrier juif. Ok? Et donc, il est en train de nous mettre en garde, parce que les faux enseignants sont arrivés, et ils disent, si vous voulez vraiment arriver à la plénitude, il faut pratiquer ces rituels juifs. Maintenant, Dieu avait donné ces rituels aux juifs. Pourquoi? Il explique dans le verset que ces choses sont l'ombre, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Alors, j'arrive et vous êtes à l'autre côté d'un bâtiment, vous ne me voyez pas, mais avant que j'arrive, si le soleil est dans le bon sens, vous voyez mon ombre. C'est pas moi, mais cela annonce ma venue. Ces rituels étaient des images du Christ qui allait venir et de ce qu'il allait faire sur la croix. Par exemple, la Pâque, l'agneau immolé, n'est-ce pas, qui nous donne une image du vrai agneau immolé, Christ, et comment il nous rachète. Donc, une fois que Christ est venu et qu'il a accompli le salut, toutes ces images, tous ces rituels deviennent caduques. Les gens, est-ce que vous savez ce que ça veut dire caduque? Ok. Caduque, ça veut dire que ce n'est plus valide. Dieu vous commandait de faire ça à un moment donné, mais il vous dit, ne faites plus cela, c'est fini. OK? Donc je suis italien et je monte pour voir la belle ville de Marseille. On m'a parlé du centre-ville de Marseille, au moins certaines parties. Il y a certaines parties très belles de Marseille. Et donc, en arrivant du sud de l'Italie, je vois des panneaux à certains moments vers Lyon. Et quand je m'approche un peu plus, Lyon centre-ville. Ah, pardon, Marseille, Marseille centre-ville. Donc, enfin, j'arrive à Marseille et au centre-ville. Mais vous allez me croire fou si une fois au centre-ville, je dis à ma femme, je ne vois plus de panneaux vers le centre-ville, cherchons les panneaux, on a besoin de ces panneaux. Ça, non, les panneaux sont pour vous diriger vers quelque chose, mais une fois que vous êtes là, vous laissez tomber les panneaux. Les fêtes juives, les rituels juifs, c'était pour nous pointer vers Christ ou pointer les Juifs vers le Christ qui venait, mais une fois qu'il est là, Dieu dit, ne gardez plus cela. Parce que je ne regarde pas une photo de ma femme lorsque ma femme arrive. OK? Et quel est le problème avec tout cela? Le problème n'est pas simplement que c'est juste une photo de quelque chose qui est maintenant là. Ça, c'est déjà assez pour qu'on garde plus ces fêtes juives. Mais il y a un autre problème. C'est que les faux enseignants, écoutez bien, les faux enseignants exhortaient à garder ces fêtes. Pourquoi? En tant que pas d'une échelle pour grimper à Dieu. Ils ont fait une religion, une manière que moi je peux arriver à quelque chose que Dieu ne fait pas descendre vers moi dans le Christ. C'est pas donné, c'est accompli par moi et mon escalade, n'est-ce pas? Donc voilà le gros problème. Ces choses sont caduques, mais en plus, tu en fais une religion. Et ça vous distrait de quoi? Ça vous distrait de Christ lui-même, en qui est toute la puissance et la sagesse et la connaissance dont vous avez besoin pour grandir en tant que chrétien et connaître Dieu mieux. OK, ça c'est la première. Le premier problème. Le deuxième. Le premier était le ritualisme et le deuxième, c'est le mysticisme. Nous lisons au verset 18, donc c'est le deuxième paragraphe de ce dernier bloc. Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par les gens qui se complaisent dans l'humilité et le culte des anges au gré de leur vision. Ils sont gonflés d'un vain orgueil par ces pensées charnelles au lieu de s'attacher au chef, donc Christ. Par qui tout le corps, l'Église, soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations, chaque membre de l'Église, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Alors, deuxième point, ne grimpez pas l'échelle du mysticisme. Alors, cela existe beaucoup aujourd'hui. Les faux enseignants disaient que il faut adorer les anges. Ils avaient tout un culte des anges, des expériences mystiques, dont vous voyez dans le passage qu'ils sont gonflés d'un vain orgueil par leur pensée charnelle, et donc ils se complaisent dans le culte des anges au gré de leur vision. J'ai eu cette vision, j'ai eu cette expérience. Et apparemment, ils avaient établi toute une échelle de médiateurs angéliques pour arriver à la plénitude. Donc il faut passer par ça et ça et ça et ça, et vous allez y arriver. D'accord? Au lieu que ce soit le Christ qui nous amène toute la plénitude de Dieu, toute la plénitude du Saint-Esprit, par lui, ce qu'il a fait. Et donc il y avait ce mysticisme, ces expériences. Vous pouvez les voir aujourd'hui dans beaucoup de religions. Beaucoup de gens veulent grimper une échelle de mysticisme. Ils sont préoccupés par quoi? Par Christ et ce qu'il a fait, Et la plénitude qui est en lui, le Christ ressuscité, ils sont préoccupés plutôt par ce qu'ils font, c'est-à-dire une religion. Et quel est le résultat de tout ça? Dans le passage, nous lisons, ils sont gonflés, ils se complaisent dans l'humilité, c'est-à-dire ils sont fiers de leur humilité. Et quand l'humilité est fausse, on s'en vante, n'est-ce pas? Ils se complaisent dans l'humilité et dans le culte des anges, au gré de leur vision, ils sont gonflés d'un vain orgueil par ces pensées charnelles. Alors, test. Si jamais quelqu'un vient vous enseigner un faux enseignement dans l'église, il va y avoir de l'orgueil. Il va parler beaucoup de lui-même et de ses expériences. Au lieu de parler de Christ et son humiliation, sa descente à ma place, il a pris ce que j'avais mérité, c'est moi qui devais être sur la croix, cette croix. Ils vont vous parler de leurs glorieuses exaltations et leurs expériences. Et là, vous saurez qu'il y a le stoïcaire, là. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre quelque chose d'en bas, inventé, fabriqué par l'homme, mais attention, non seulement par l'homme, mais il y a aussi parfois le démoniaque. Il y a une autre puissance d'en bas. Vous savez que le monde spirituel a deux côtés quand même. Et les gens ont des expériences qui sont surnaturelles et réelles. J'en ai vu en Afrique. J'ai vu des personnes possédées par des démons. J'ai entendu une dame qui parlait avec la voix, qui me parlait avec la voix d'un homme et qui me disait son nom. Donc, le monde spirituel est là et vous pouvez avoir des visions. Mais Paul dit dans ce passage que ces visions créent non pas une croissance chrétienne, mais plutôt de plus en plus d'orgueil. Et de plus en plus, on est distrait de Christ. Regardez bien, il dit, ils sont gonflés d'un vain orgueil par leur pensée charnelle, au lieu de s'attacher au chef. Voilà. Et je crois que l'ennemi de votre âme, il est content si vous avez des expériences grandioses, tant que vous ne vous attachez pas au Christ ressuscité, au Sauveur. Vous ne pensez pas trop à lui, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, son incarnation, sa vie parfaite, ses miracles, sa mort à la croix, sa résurrection, son intercession auprès de Dieu pour nous, son retour glorieux un jour. Tant que vous ne pensez pas trop à ça et tant que vous ne vivez pas par une relation avec lui, par la foi, puisant, comptant sur lui, ayez toutes les visions que vous voulez, ce n'est qu'une échelle que vous escaladez. Troisième et dernier. Ne grimpez pas l'échelle de l'ascéticisme. Nous lisons la dernière partie. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire, donc le stoïcéa du monde, pourquoi? Et maintenant, blanc, vous pouvez imaginer, maintenant il devient un peu personnel là. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est une contradiction. Si vous êtes mort avec Christ ou stoïcia, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez vous imposer? Les gens sont intimidants, les faux enseignants. Vous laissez imposer donc ces règlements, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Donc beaucoup de privation, l'ascétisme. Hein? Toutes ces choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire les choses que vous ne devez pas toucher ou manger, ça ne concerne que les choses d'en bas, les choses qui disparaissent une fois que vous les utilisez. Ça n'a pas de puissance céleste parce que ce n'est que des choses matérielles. Ok? Donc, il dit, il est vrai. Tout cela a une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité, rigueur pour le corps, on se fait souffrir physiquement, mais qui ne mérite pas d'honneur et qui contribue à la satisfaction de la chair. Plutôt que de tuer le péché, je vous assure que tout ça augmente le péché dans une autre forme. Voilà le moine dans le Moyen-Âge qui est allé s'asseoir pendant plusieurs années sur un poteau. Je ne vous parle pas de quelque chose de faux. Il y avait tout un groupe de moines qui pensaient s'approcher de Dieu en érigeant des poteaux et en allant s'asseoir toute la journée sur ces poteaux, très haut, où ils ne pouvaient parler à personne. oui, bon. Ou bien le vœu du célibat. Je me prive de quelque chose que Dieu donne aux hommes dans sa bonté, en pensant que quand je me prive, ça me rapproche de Dieu. Ou vous pouvez penser au Ramadan, où en me faisant souffrir de la sorte, je me préoccupe de moi-même, de ce que je fais, et c'est ce que je fais moi, en prenant des choses élémentaires de ce monde, et je vais grimper une échelle en me faisant des règles pour arriver à Dieu et à sa bénédiction et à la transformation. Est-ce que nous voyons ça aujourd'hui? Nous le voyons dans certains milieux chrétiens. Je pourrais vous dire que nous avons des problèmes, même en France. Je pense à un groupe qui a un vrai ascéticisme de cette sorte. Quelles sont les caractéristiques? D'abord, on vous met de la pression, comme le texte dit. On vous impose ces choses parce qu'on peut jeûner. Moi, je jeûne parfois. Je ne mange pas pour prier mieux, mais non pas pour grimper une échelle vers Dieu. Mais deuxièmement, ces choses d'habitude sont presque toutes négatives. Ne prenez pas, ne mangez pas, ne touchez pas. Quand on s'embarque dans cette manière de vouloir gagner la faveur de Dieu par nous-mêmes, nous avons toujours envie de souffrir, de payer la dette de nos péchés nous-mêmes, la dette qui est déjà payée. C'est terrible, n'est-ce pas? Quand on ne croit pas que la dette a été payée par pure grâce par Christ, on a mauvaise conscience et on a besoin de souffrir, n'est-ce pas? C'est terrible. J'étais dans ça dans toute ma jeunesse. Mais troisièmement, ces choses impliquent que des trucs de ce monde qui périssent avec l'usage. C'est-à-dire, tu n'es pas en train de puiser dans les ressources célestes qui sont en Christ. Mais seulement, ne touche pas ça ou ne mange pas ceci. Tu n'as que les choses sans puissance pour t'aider. Et ils ont une apparence de sagesse. Quand on voit ces gens qui font ces jeûnes incroyables, qui font ces méditations et qui ont l'air sains, n'est-ce pas? Il y a une apparence, dit Paul. Il y a une apparence de sagesse. Mais le problème, c'est que ça ne change pas le cœur. Christ seul peut changer le cœur. Je termine tout simplement en disant que Paul dit dans ce texte au verset 20, si vous êtes mort avec Christ au stoïcia, pourquoi est-ce que vous vous embarquez encore là-dedans? C'est-à-dire, si vous êtes mort avec Christ en devenant chrétien, à tout ce principe diabolique de penser que vous devez grimper vous-même pour arriver à Dieu, ça c'est une idée qui elle-même est fausse. Et pécheresse et coupable. Tout nous vient de Dieu. Il est plein de grâce, il est plein d'amour. Il descend sur une croix pour nous apporter ce qu'il nous faut. Et lorsque nous avons l'idée que c'est le contraire, c'est nous qui grimpons par ce que nous souffrons, non, vous êtes mort à ça. C'est fini ça. Christ a souffert pour que vous ne pensiez jamais plus ça. Dieu en Christ est votre salut du début à la fin. Et donc, que devons-nous faire, les amis? Je crois que c'est beaucoup plus subtil que nous ne pensions. Je crois que lorsque vous n'avez pas prié pendant une semaine et vous vous sentez mal, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah mince, il faut que je trouve une manière de me discipliner plus. Peut-être, mais attention, ne pas faire votre échelle. Parce que vous pouvez vite vous embarquer sur juste une réflexion sur toi et comment est-ce que toi, tu vas mieux arriver. Au lieu d'abord de dire à Christ, pardonne-moi, je ne t'ai même pas parlé, lave-moi, œuvre en moi, restaure en moi cette envie de parler avec toi, d'être proche de toi. Et, n'est-ce pas? On vit par la foi en Christ. Et puis, peut-être si on a besoin d'une discipline, on peut l'utiliser à bon escient. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de moyens par lesquels nous sommes constamment pris, chacun de nous, dans ces principes élémentaires du monde par lesquels nous essayons d'arriver en tant que chrétiens, sans vraiment besoin du Christ, sans vraiment nous référer à lui, et vraiment voir que la vie chrétienne est une relation, c'est lui, c'est compter sur lui, c'est puiser en lui, c'est parler avec lui, c'est le voir agir en moi. Et donc, tout ce qui me préoccupe pour que je ne pense pas à cette relation est dangereux pour moi. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse et que nous puissions vraiment le remercier qu'il nous a donné non pas une religion, mais une relation de grâce. Nous allons chanter pour terminer le culte. Donc, le numéro 48, Jésus seul. Ce chant va nous aider.